En ce mois de rentrée scolaire, il est bon de se demander qu'est-ce qui nous motive. Et si nous, professeurs, nous trouvons des réponses qui nous appartiennent, comment transmettre cette motivation aux élèves? Et d'ailleurs, la motivation est-elle quelque chose qui se transmet, qui est impulsé par un agent extérieur? S'agit-il de motiver les élèves ou de les amener à se motiver eux-mêmes en fonction de leurs désirs personnels? Et dans ce cas, comment les accompagner dans cet élan et cette dynamique tout en respectant les programmes et les attentes institutionnelles? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête.
Enquête d'école, Adeline Outchranger.
La motivation est un concept construit afin de tenter de décrire ce qui déclenche, guide et fait persister une action humaine. Si les chercheuses se mettent d'accord sur l'idée de dynamique et de force, les débats portent en revanche sur l'origine de cette force. Vient-elle de l'extérieur, de facteurs étrangers qui nous motivent, au risque de laisser trop peu de place au libre arbitre, ou bien c'est une force qui ne peut venir que de soi? En effet, les écoles humanistes ou cognitivistes privilégient l'idée d'un engagement personnel du sujet dans la motivation. Antoine de la Garandrie, philosophe et pédagogue, écrit dans La Motivation que cette dernière est une raison de choisir dans laquelle la conscience se reconnaît. Il ajoute qu'une personne est motivée quand elle a conscience des motifs et que ces motifs sont l'objet de ses choix. L'enjeu est alors de taille pour les professeurs. Comment amener chaque élève à considérer que les tâches et apprentissages proposés sont des choix et non des contraintes? Cela semble être un vœu pieux. Cependant, cette définition permet de mieux comprendre les composantes et les sources de la motivation dans le cadre de la classe et ses activités. Premièrement, cela permet de rappeler que la motivation repose sur des perceptions et des évaluations subjectives. La source de la dynamique et l'explication de ces variations repose sur des représentations. Dire que la motivation scolaire repose sur des perceptions de l'élève, c'est affirmer que cette motivation n'est pas immuable. Les élèves peuvent changer de perception et ainsi cheminer vers une motivation plus grande, malgré leur déclaration péremptoire sur une discipline ou sur l'école en général.
Eh ben, tu vois que tu y arrives. C'est pas plus dur que de voler des bottes. Alors pourquoi tu vas pas à l'école?
Parce que j'aime pas ça.
T'aimes pas ça? Mais c'est bien l'école, il y a tes copains.
J'aime pas ma maîtresse.
Et pourquoi t'aimes pas ta maîtresse?
Parce qu'elle m'aime pas.
Roland Viau, chercheur en sciences de l'éducation, décline ses sources subjectives de la motivation en trois perceptions. Celle de la valeur d'une activité, de sa compétence à l'accomplir et de sa contrôlabilité. Écoutons-le.
Il va se demander, est-ce important de faire ce que le prof me demande de faire? Est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que c'est intéressant ce qu'il me demande de faire? S'il n'est pas capable de répondre oui, on peut avoir un problème de motivation. Et ça arrive assez souvent. Ça arrive entre autres au lycée. Combien de fois les élèves disent, c'est incroyable, ce que le prof nous demande de faire, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune utilité, c'est pour lui, je vais lui faire son travail, mais ça ne me donne absolument rien.
La valeur que l'on donne à une activité dépend donc soit de l'intérêt qu'on y trouve, soit de son utilité. L'intérêt, c'est le plaisir pris à la tâche elle-même, indépendamment de toute récompense extérieure. C'est alors une source intrinsèque de motivation. Par ailleurs, l'utilité, c'est l'avantage qu'on pense retirer de l'activité ou l'inconvénient qu'on évite. C'est une source extrinsèque. En classe, l'élève peut trouver de la valeur à un cours parce qu'il aime apprendre de nouvelles choses. Il prend plaisir à l'activité en elle-même qui devient la finalité de son action. À l'inverse, il peut concevoir que faire cette activité lui apportera une note nécessaire à son dossier ou une compétence utile à son futur métier. Dans ce cas, il lui accorde le statut de moyen et lui donne une valeur extrinsèque. Il en est de même s'il apprend par crainte des sanctions, par exemple.
Attention, nouvelle question. Choisissez la bonne réponse.
C'est New York.
Réponse
aïe, aïe, aïe.
Pour compléter ce premier point, Robert Valeran et Edgar Thiel relèvent que les élèves obtiennent de meilleurs résultats lorsqu'ils agissent selon des motivations intrinsèques. Ainsi, l'apprentissage n'est pas seulement le résultat de la motivation, mais il en est aussi une source, une impulsion. L'apprentissage en lui-même est un but qui motive davantage que la note ou le diplôme. La seconde source subjective de la motivation est la perception de sa compétence à réussir l'activité proposée. Aucun élève n'est volontaire à accomplir une tâche qu'il pense ratée. Le problème vient alors de leur perception plus ou moins réaliste de leur capacité. Cependant, leurs jugements sur leur capacité ne sont pas irrationnels. Ils sont fondés sur leur performance antérieure, sur l'observation des autres, sur les remarques des parents ou des professeurs, mais aussi sur l'observation de leur propension au stress. Cette perception peut néanmoins être illusoire, car certains facteurs sont plus déterminants que d'autres. Le jugement des parents et son interprétation par l'enfant sont par exemple au cœur de la perception de sa compétence, bien devant ses performances.
Alors ça y est, plus aucune école veut de toi, t'es content ? Tu sais ce qu'ils deviennent les enfants qui ne travaillent pas ? Des clochards !
La troisième source de motivation face à l'activité pédagogique est la perception de la contrôlabilité. Cette perception naît du besoin d'autonomie, du désir de se sentir libre de ses choix, même au sein de la classe. Les élèves sont d'autant plus volontaires à s'engager dans une activité s'ils ont l'impression qu'ils sont maîtres de quelque chose tout en étant face à une difficulté. Le succès des jeux vidéo est en partie dû aux tâches proposées, des situations complexes, mais qu'ils et elles sont convaincus de pouvoir surmonter à force de persévérance et grâce à leurs décisions. Ils sont littéralement aux manettes. Pierre Vianin, enseignant spécialisé et professeur à la Haute École Pédagogique du Valais, insiste sur le sens que donne l'élève à chaque activité et il remarque que les activités très motivantes sont celles qui ont des buts difficiles, mais accessibles et dans un délai assez court. C'est ainsi que les élèves y perçoivent une manière de s'accomplir personnellement. C'est alors une réelle réflexion pour les professeurs de concevoir une activité qui propose du défi, mais soit adaptée au niveau des élèves, et qui délègue une partie des choix et des responsabilités, tout en les guidant et les accompagnant de consignes très claires et de repères. Être en contrôle, ce n'est pas seulement se sentir compétent et libre, c'est aussi et surtout comprendre et expliquer nos succès et nos échecs. Si un élève attribue ses échecs à la malchance sur laquelle il n'a aucune maîtrise ou sur une tare innée qu'il voit comme un destin, alors il est peu probable qu'il soit motivé à fournir le moindre effort. C'est ce que Pierre Vianin nomme l'attribution causale. Quelle cause l'élève identifie-t-il pour expliquer ses erreurs ? Pour que l'élève soit motivé, il faut qu'il explique ses échecs par des causes à la fois internes, transitoires et contrôlables. Une cause interne, c'est une cause qui dépend de lui, de ses efforts, de son travail, de la forme de son raisonnement. Parler de la difficulté de l'épreuve, de la chance ou de la qualité de l'enseignant, c'est parler de cause externe. Une cause transitoire, c'est une cause qui est passagère, qui n'est pas permanente. Par exemple, si l'élève pense que l'intelligence est innée et fixe, plutôt que évolutive et plastique, il dira « Je ne suis pas fait pour ça.
Moi, je suis nul, systématique, nul en calcul, nul en physique, nul en français.
Une cause contrôlable est une cause sur laquelle on a un pouvoir, qui peut changer suite à nos décisions et nos choix. Rien ne motive davantage que le sentiment d'efficacité personnelle. Or, de nombreux élèves démotivés subissent une résignation apprise ou impuissance acquise qui est le fruit d'une construction. C'est le résultat de l'apprentissage que leurs efforts sont inutiles. Face à ces constats, quels leviers pouvons-nous utiliser pour changer les perceptions des élèves ? Tout d'abord, le langage est très important. Si l'élève use de formules qui l'enferment dans un destin de nullité, les professeurs, au contraire, pourront veiller à toujours séparer l'élève de ses résultats et lui apprendre à distinguer ce qu'il est de ce qu'il produit, selon une formule de Daniel Favre, professeur en sciences de l'éducation. Écoutons-le.
Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais une erreur ? Est-ce que si je fais une erreur, je fais quelque chose de mal ? Et il y a donc à déconstruire finalement ce que notre passé nous a laissé en héritage, c'est-à-dire que l'erreur, dans l'apprentissage, est une information intéressante. Si je peux l'accepter, si je peux la prendre en compte, je vais pouvoir apprendre et surtout ne pas penser que je fais quelque chose de mal. Donc il y a ce statut de l'erreur qui doit être dépoussiéré de la, notion de faute qui veut dire que l'erreur est du registre du mal.
Lors des évaluations, on peut faire attention à sa dimension formative, que les progrès soient remarqués, que les acquis prennent autant de place que les manques. Les recherches insistent beaucoup sur l'apprentissage de l'auto-évaluation et de l'anticipation des attentes qui permet de renforcer le sentiment de contrôle. Mais surtout, pour changer leur perception, il faudrait les accompagner dans leur méthode de travail, leur apprendre à apprendre et ne jamais considérer que c'était le travail des classes antérieures. Ainsi, questionner les élèves sur leur stratégie d'apprentissage et les amener à évaluer l'efficacité de ces stratégies, c'est leur donner l'occasion de reprendre le pouvoir sur leur scolarité. José Luis Wolfs, professeur en sciences de l'éducation, propose un questionnaire entier qui demande aux élèves d'identifier leur méthode de travail et qui, par là même, les renseigne sur un grand nombre d'autres méthodes. Par exemple, lorsqu'ils demandent aux élèves ce qu'ils font quand ils doivent mémoriser une matière, ils peuvent dire qu'ils essaient 1. De mémoriser tout le cours, 2. De retenir ce qui paraît le plus important, ou 3. D'apprendre un plan ou un résumé du cours. Cela nous amène nécessairement à poser la question de comment on identifie ce qui est important ou comment est-ce qu'on résume un cours, ce qui revient à les guider dans leur travail de révision. En dernier point, Roland Viau insiste sur l'opportunité qu'ont les professeurs d'être des modèles d'apprenants devant les élèves. Trop peu de fois, nous montrons comment nous-mêmes nous apprenons ou raisonnons. Les élèves ont besoin de modèles d'apprenants, à contrario du modèle du sachant, qui prennent plaisir à apprendre et à se confronter à la difficulté ou à la nouveauté. Cette nouveauté peut être aussi celle de s'intéresser à ce qui anime les élèves, à leur centre d'intérêt, non par démagogie, mais pour éveiller leur curiosité et surtout être capable d'établir des analogies entre ce qu'ils connaissent, comprennent et les contenus de cours. Pour conclure, nous voyons nous-mêmes notre motivation entravée par notre impuissance et nos échecs face à l'absence de motivation des élèves. Or, en comprenant ce qu'elle est, d'où elle vient, et en élaborant des méthodes d'action pour la transformer, nous pouvons être plus motivés nous-mêmes à retourner en classe, ce qui peut être contagieux.
C'était Enquête d'école avec Adeline Hunscheringer et Sébastien Boudin à la réalisation et au mixage. Retrouvez toutes les références sur le site de Cadécole et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.